各位收听的是
Radio France International，
大家好，我是顾西德。
Accent du monde， Philippe Le Caplain。
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ravi de vous retrouver avec Nina Luang de la rédaction chinoise. À propos de la crise à Hong Kong et de ces gens qui pensent à quitter le territoire. Pour la rédaction en espagnol, Asbel López.
Hola.
Pour les tensions à la frontière de la Colombie avec le Venezuela. Et Matei Vichniec de la rédaction roumaine. Pour les 80 ans du début de la Seconde Guerre mondiale.
Bonasera.
Bonsoir à vous tous. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine et de l'été d'ailleurs, à savoir la contestation qui ne faiblit pas à Hong Kong, malgré le recul de Carrie Lam sur le projet de loi d'extradition vers la Chine. Cela fait maintenant 13 semaines que cela dure. Il y a le retrait définitif désormais du projet de loi d'extradition, mais les quatre autres demandes de l'opposition ne sont toujours pas satisfaites. Trop tard, trop peu, dit cette opposition, qui exige que toutes ces demandes soient prises en compte, Ninan. Il y en a cinq.
Oui, il y a bien cinq exigences de l'opposition, à savoir retrait pur et simple du projet de loi sur les extraditions, amnistie des arrêtés, abandon du terme émeute que l'autorité utilise pour qualifier le mouvement, enquête indépendante sur les violences policières, démission de l'exécutif et les élections réellement libres. Cinq exigences, pas une de moins, dit l'opposition. Après des manifestations quasi quotidiennes, non sans violence dans la deuxième phase, avec plus de 1200 arrêtés selon l'organisateur.
Alors comment est-ce que le gouvernement hongkongais entend traiter ces demandes ?
C'est un grand flou. On peut dire que presque tout le reste de ce qu'ils veulent n'ont pas reçu de réponse satisfaisante. Le gouvernement local propose de dialogue social, mais une élection réellement libre, c'est la ligne rouge de Pékin. Donc ce n'est pas atteignable pour l'instant. Ensuite, l'exécutif souligne qu'elle ne veut pas démissionner, tout en disant amnistie pas possible. Les émeutes sont toujours à punir. L'enquête sur la violence policière, pas de problème, mais sous IPCC, une organisation gouvernementale qui traite les plaintes contre les policières et non sous une équipe vraiment indépendante.
Alors, c'est quoi la différence entre les deux, Ninan?
D'abord, le IPCC, c'est le Conseil des plaintes policières indépendantes du commissariat de Hong Kong. Il n'a pas de pouvoir de convoquer les témoins et les informations dans les réclamations sont utilisables dans le futur, dans les investigations qui n'ont peut-être rien à voir avec celles-ci. Ensuite, l'opposition craint que cela pose de problèmes de sécurité pour les plaignants et les témoins et la plupart des membres de cette organisation est issue du milieu pro-gouvernemental. L'opposition dit ne pas pouvoir lui faire confiance. Alors que la commission indépendante de l'enquête créée par l'exécutif uniquement pour une seule affaire est composée en général des juges, donc ils ont le pouvoir de convoquer les témoins, les documents liés ne sont utilisés que dans cette affaire et non dans le futur pour une meilleure protection des données.
Matei Vichniec, vous avez suivi cette crise pour la rédaction en langue roumaine. Vous vous interrogez, combien de temps le principe un pays, deux systèmes peut-il encore être viable?
En effet, on ne sait pas, mais il montre ses limites. Il faut se rappeler que le père de ce principe est Deng Xiaoping, l'homme qui a écrasé le printemps de Pékin, mais qui a lancé aussi la Chine sur l'économie du marché, donc sur la voie de la prospérité. Deng Xiaoping avait promis en juillet 97, lorsque la colonie britannique a été rétrocédée à la Chine, que rien n'allait changer pendant 50 ans. Mais en réalité, le modèle démocratique de Hong Kong et sa presse libre dérangent le régime communiste, d'autant plus que le président Xi Jinping s'éternise au pouvoir. Après la mort de Mao, les leaders communistes avaient convenu de notre principe que personne ne reste président et au pouvoir plus de 10 ans. Xi Jinping est le premier à avoir oublié ou renoncé à cette règle pour réintroduire le modèle impérial du chef suprême à vie. Tout cela n'a pas sûrement échappé aux habitants de Hong Kong et surtout aux jeunes.
Autre chose, Matei, cette crise tombe mal finalement pour le régime communiste à cause de la guerre économique que la Chine livre aux États-Unis et inversement.
Oui, il y a aussi un autre principe que les sages n'oublient pas. Mener une guerre sur deux fronts, cela peut devenir suicidaire. La Chine a connu déjà un blocus commercial décrété par l'Amérique après la guerre des Corées. Et cela a duré jusqu'en 1971. À cette époque, c'est par Hong Kong et Macao que la Chine a pu recevoir des marchandises occidentales. Or, comme à présent on assiste à une montée des protectionnismes dans le monde, Pékin a besoin que Hong Kong garde son statut commercial de ville ouverte. Les Chinois ont de plus en plus de mal d'obtenir des visas pour l'Amérique. Ce n'est pas le cas de Hong Kong. J'ai cité dans mes émissions des articles publiés par le Courrier International. Pour le président chinois, disent les journalistes de Hong Kong, il y a des sujets beaucoup plus urgents que le projet sur l'extradition et Hong Kong. Et cela n'étonne personne que ce projet, qui était une initiative personnelle de Carrie Lam, a été retiré.
Asbel Lopez, vous allez nous dire que certains médias en Amérique, surtout au-dessous du Rio Grande, pensent que ce qui arrive en ce moment à Hong Kong, en particulier, est perçu comme l'ingérence de Pékin, hein, c'est bien ça?
En effet, au Mexique, dans le journal El Heraldo, un journaliste se montre particulièrement bienveillant envers Pékin. Il est facile d'affirmer que les protestations à Hong Kong sont l'expression du mécontentement contre l'ingérence croissante de la Chine. Cependant, il ne faut pas oublier aussi que Hong Kong est, en fin de compte, une région administrative spéciale de la Chine, un territoire qui est revenu sous contrôle chinois en 1997, après un siècle et demi de contrôle britannique, ajoute José Carreño Figueras. Sauf que depuis longtemps, la consigne de Pékin par rapport à Hong Kong était un pays de système. C'était un autre coup de génie de Deng Xiaoping, explique Julio Rios de l'Observatoire de la Chine en Espagne. C'est grâce à cette stratégie que les Chinois ont pu préserver Hong Kong comme fenêtre vers le monde, explique Rios dans le journal El País.
Et puis il y a l'impression depuis 3 mois que c'est Pékin qui est en train de remettre en cause finalement cette idée. Hein.
Oui, d'ailleurs Julio Rios évoque une fracture entre d'un côté le nationalisme encouragé par le Parti communiste chinois et dont l'objectif est de revigorer la nation chinoise et de l'autre les demandes démocratiques à Hong Kong. C'est d'ailleurs ce qu'il appelle un pays de rêve.
Ça rappelle, Asbel, ce dicton chinois, deux personnes peuvent dormir dans le même lit mais ne pas partager le même rêve. Finalement, il s'agit de deux conceptions différentes de l'exercice du pouvoir.
En effet, Philippe, à ce propos, laissez-moi vous raconter un vif échange entre un député chilien de droite et l'ambassadeur chinois au Chili, rapporté par la presse chilienne. Il y a quelques semaines, le parlementaire Jaime Bejolio est allé à Hong Kong pour rencontrer Joshua Wong, figure emblématique de la contestation qui a été brièvement arrêté il y a une semaine. Quelques jours après, l'ambassadeur de la Chine au Chili, Su Wu, a adressé une lettre à un média chilien pour se plaindre. La personne que vous avez rencontrée, c'est tout simplement un assassin social. C'était une erreur de le rencontrer. Sur Twitter, le député chilien a écrit que le régime communiste chinois a très peur d'un gamin de 22 ans, car il cherche quelque chose qui est révolutionnaire pour un régime autoritaire, à savoir élections libres et transparentes. Bejolio a invité aussi l'ambassadeur chinois à constater que dans sa circonscription avait, entre autres, des syndicats libres, internet sans censure, partis d'opposition, liberté d'expression, tout ce que l'ambassadeur ne va pas voir en Chine et qui, très probablement, Pékin souhaite éradiquer complètement de Hong Kong. En d'autres termes, un monde de système.
On revient toujours à cela.
20 часов в Париже.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et toujours à propos de Hong Kong, avec la rédaction en chinois de Radio France Internationale qui suit peut-être plus que toutes les autres ce qui se passe là-bas, l'opposition s'inquiète de ce que le retrait définitif du projet de loi controversé pourrait être suivi du recours à la loi d'urgence, Nina Nuang, ce qui donnerait le pouvoir à l'exécutif de passer directement des ordres sans passer par la loi pour empêcher notamment l'activité des manifestants. Alors Nina, ce serait une sorte de loi martiale.
Selon la loi hongkongaise actuelle, en cas d'urgence absolue, l'exécutif peut décréter les ordres tels que examiner, contrôler et éventuellement limiter la publication des textes et des photos, arrêter, expulser les personnes jugées nuisibles, contrôler le transport, donner le droit aux policiers de pénétrer au domicile des individus et faire la perquisition, etc. Avec tout ça, l'exécutif pourrait aussi décréter le couvre-feu ou contrôler les manifestations. Elle a pourtant démenti le 5 septembre et a assuré que le retrait du projet de loi sur les extraditions n'a pour objectif que d'apaiser les manifestants et de les faire revenir à la table de négociation.
Alors, qui parle ?
C'est Carrie Lam, l'exécutif de Hong Kong. Elle dit que le bon déroulement de tous les aspects de vie et de business à Hong Kong est bouleversé profondément par la violence. Elle souhaite donc que la paix revienne et que la société sorte de cette crise. C'est le seul objectif de son recul face aux manifestants. Le recours à la loi d'urgence n'aura pas lieu.
Alors, face à la pression de Pékin, un des chefs de l'opposition, il s'appelle Joshua Wong, a lancé un appel aux Taïwanais pour qu'ils aident les Hongkongais.
Oui, d'abord pour un meilleur accueil des Hongkongais. En fait, Taïwan est une des destinations d'immigration les plus choisies par les Hongkongais inquiétés. Selon Taipei, en 2018, le nombre de demandeurs d'immigration ou de longs séjours de citoyens de Hong Kong ou de Macao à Taïwan était 1267, soit presque double par rapport il y a 4 ans. Et cette année, rien qu'entre janvier et juillet, ce chiffre a atteint 2631.
Et puis, il y a cette étude de l'Université chinoise de Hong Kong qui montre que 34% des Hongkongais, c'est-à-dire 1 sur 3, a envie de partir vivre ailleurs.
Oui, et Taïwan se trouve à la tête de leur liste d'envies comme destination en Asie. La Malaisie est aussi choisie par beaucoup de Hongkongais, mais c'est vraiment Taïwan le favori. C'est pour ça que l'opposition souhaite que Taïwan, à travers la législation, pourrait mieux aider les Hongkongais venus s'installer. On écoute Joshua Wong lors de sa visite à Taipei.
香港政府正在考虑动用这个紧急法。
Alors, que dit ce chef de l'opposition?
Il dit qu'il souhaite que Hong Kong de demain pourrait être une démocratie et libre comme Taïwan et que Taïwan peut donner de l'aide humanitaire aux Hongkongais venus la chercher. Et enfin, il veut que le soutien taïwanais se manifeste le week-end avant le 1er octobre, fête nationale chinoise. C'est le jour pleinement préparé à Pékin pour montrer au peuple chinois et surtout au monde la puissance de leur gouvernement. Les voix de désharmonie ne sont pas censées avoir leur place, mais les appels de Joshua Wong ont reçu des réponses plutôt positives de plusieurs partis politiques taïwanais. Ils ont promis un accueil plus systématique des Hongkongais et un soutien pour les manifestations.
Nina Wang de la rédaction chinoise de RFI. Quant à nos confrères de la rédaction en espagnol, issus de très près la tension qui règne entre le Venezuela et la Colombie, alors que d'anciens chefs de la guérilla des FARC viennent d'annoncer qu'ils reprennent la lutte armée, Nicolas Maduro a déclaré l'alerte orange à la frontière entre les deux pays. Le président vénézuélien accuse Bogota de vouloir déclencher un conflit armé. Bogota répond que son armée est prête à répondre aux provocations de Caracas. Bref, c'est l'escalade. C'est grave, mais finalement, Asbel, ce n'est pas nouveau. Depuis une quinzaine d'années, ce genre d'échange est courant.
Oui, en effet, mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que les deux gouvernements n'ont quasiment plus de contact. Entre Caracas et Bogota, la rupture est presque totale. Et cela, quelques temps après l'arrivée au pouvoir du président colombien Iván Duque, proche d'Uribe, ennemi juré de Maduro. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, des communications entre les organismes de sécurité des deux pays, d'un côté et de l'autre de la frontière. Ceci laisse le champ libre à dissidence de la guérilla et narcos, entre autres. Preuve supplémentaire de la tension dans la frontière entre la Colombie et le Venezuela, Maduro a annoncé des manœuvres militaires à partir de mardi prochain.
Et puis je le disais, plusieurs anciens chefs de la guérilla des FARC, dont le principal négociateur de la paix à La Havane, Ivan Marquez, ont annoncé leur retour à la lutte armée. Alors est-ce que cet événement a un impact sur ces tensions justement entre Caracas et Bogota?
Oui, certainement, car Bogota accuse Caracas depuis longtemps de soutenir la guérilla. Le président colombien a dénoncé des liens étroits entre ce nouveau groupe dissident et le gouvernement chaviste. Duque a fait référence de façon explicite, ce qui a rappelé des situations à haut risque. Dans le passé, en effet, le président Uribe avait même menacé d'ordonner une opération militaire en territoire vénézuélien pour capturer des combattants de la guérilla.
Tension donc entre Bogota et Caracas, retour à la lutte armée de figures emblématiques de la guérilla qui ont signé la paix. Est-ce le retour vers un passé douloureux pour la Colombie?
Oui, c'est possible, mais il semble que la plupart des guerrilleros qui ont abandonné les armes sont toujours engagés dans le processus de paix, et cela même après l'assassinat de plus d'une centaine d'entre eux. Les figures emblématiques qui ont retourné à la clandestinité, ce sont aussi celles qui avaient en quelque sorte décroché du processus. Santrich était poursuivi par la justice pour trafic de drogue et Marquez était introuvable depuis un an. Le principal souci aujourd'hui en Colombie, c'est que le gouvernement ne respecte pas les engagements qui sont les siens dans la mise en place du processus de paix. À ce propos, écoutons Ronald Rodriguez de l'Observatoire de Venezuela à l'Université El Rosario à Bogota.
Digamos que lo importante en este caso es tratar de concretar el acuerdo de paz, cumplirle a aquellos que están cumpliendo. El Estado colombiano tiene que tener muchísimo cuidado.
¿Quelle est son analyse?
Le plus important aujourd'hui en Colombie, dit-il, c'est de concrétiser le processus de paix, que le gouvernement respecte les engagements de ceux qui les respectent, cumplirle a aquellos que están cumpliendo. En d'autres termes, tenir parole.
Merci Asbel Lopez de la rédaction hispanophone de RFI. Il y a quelques jours était commémoré le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a de cela 80 ans. La Pologne était alors envahie par l'armée allemande et tout allait en découler avec le jeu des alliances. Matej Wiśniak, les célébrations ont eu lieu en l'absence du président américain.
Oui, et disons tout de suite que les Polonais attendaient Donald Trump pour cette occasion, mais le président américain n'est pas venu finalement. Il a motivé son désistement par la menace de l'ouragan Dorian qui frappait la côte ouest des États-Unis. À sa place a été envoyé le vice-président américain Mike Pence. Les Polonais ont été très déçus, surtout la formation au pouvoir, le parti droit et justice. En réalité, Donald Trump était peut-être déjà fatigué après le précédent voyage en Europe au sommet G7 de Biarritz, mais aussi il n'a pas voulu peut-être faire un cadeau électoral aux dirigeants polonais. En octobre, les Polonais vont voter dans le cadre des élections législatives et le pouvoir nationaliste voulait sans doute profiter de la présence de Donald Trump pour galvaniser ses électeurs. Je rappelle que ce pouvoir est accusé de dérive autoritaire et se trouve en ce moment en plein bras de fer avec la Commission européenne qui a ouvert plusieurs procédures d'infraction contre Varsovie.
Alors cette Deuxième Guerre mondiale est un chapitre d'histoire qui hante toujours les relations entre la Pologne et l'Allemagne. Matej, mais également les relations entre la Pologne et la Russie.
Je signale déjà le fait que le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a fait le déplacement à Varsovie avec Angela Merkel, a demandé pardon dimanche dernier aux victimes polonaises de l'agression nazie d'il y a 80 ans, tandis que son homologue polonais Andrzej Duda a accusé la Russie d'une tendance impérialiste. Oui, disons qu'un manuel d'histoire commun pour l'Allemagne, la Pologne et la Russie, et pour toute l'Europe, ce n'est pas pour demain ou pour lendemain. D'autant plus que nous assistons à des tentatives de réécriture de l'histoire. Rien n'est oublié, ou plutôt, on fait des efforts pour oublier ce qui dérange. Mais l'histoire est instrumentalisée pour des fins politiques et même économiques. Par exemple, le parti au pouvoir en Pologne a demandé plusieurs fois, ces dernières années, des réparations de guerre à l'Allemagne, pays qui est quand même l'un des principaux partenaires commerciaux du pays.
Et finalement, on réécrit l'histoire du côté russe également, Matej.
Oui, il y a 10 ans, Vladimir Poutine était venu à Varsovie pour les mêmes commémorations et a prononcé un discours très remarqué, avec des mots critiques par rapport à Staline, à ses erreurs. Aujourd'hui, les Russes ont réhabilité Staline et essayent aussi de justifier le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov, qui avait stupéfié à l'époque toute l'Europe et surtout les formations du gauche, on se rappelle même en France. C'est suite à ce pacte que les Russes sont entrés eux aussi en Pologne, c'était le 17 septembre 1939, pour occuper la partie Est. Aujourd'hui, le pouvoir russe justifie la signature du pacte et dénonce, je cite, « la lâcheté de la France et de la Grande-Bretagne qui voulait pousser l'expansion des nazis vers l'Est ». Concernant la Pologne, elle réécrit l'histoire afin de se poser exclusivement en victime et pour nier tout rôle dans la destruction de 3 millions de juifs polonais pendant la guerre.
Puisque vous êtes de la rédaction roumaine, Matej, le rôle de la Roumanie, enfin la Roumanie dans la Deuxième Guerre mondiale, ça mérite peut-être un petit rappel aussi.
Dans la première phase, elle a été neutre et disons l'aviation polonaise est venue se réfugier après l'invasion en Roumanie. D'ailleurs, le gouvernement polonais a transité par la Roumanie pour aller à Londres. C'est un peu plus tard que la Roumanie a été embarquée lorsque l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique dans cette guerre à côté des Allemands.
Et à l'issue de la guerre, la Roumanie était plutôt dans quel camp ?
Au moment où le Paris était libéré le 23 août 1944, la Roumanie changeait d'alliance et passait du côté des Alliés contre les Allemands.
Merci à vous, c'était Accent du Monde sur Radio France Internationale, ce qui fait l'actualité dans le monde vue par les rédactions en langues étrangères de RFI.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en roumain.
În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet 24 de ore din 24 pe rfi.ro.
Écoutez RFI à Cluj sur 91.7 FM et sur rfi.ro.